Oui, alors moi j'aimerais juste rajouter quelque chose sur effectivement les sous-traitants du nucléaire, qui tu viens d'en parler, des intérimaires et puis des gens qui sont dans des petites PME que EDF sous-traite, hein, dans des petites PME ou même des moyennes entreprises hein, de 50-500 personnes. Il y en a un qui est venu dans notre émission, je ne fais pas de la pub pour notre émission, mais quand même c'est intéressant de le dire. Si je peux faire de la pub, voilà, c'est mode d'emploi, voilà. Et il a quand même dit, lui qui est donc sous-traitant du nucléaire, il a quand même dit que tous les sous-traitants du nucléaire étaient irradiés. Alors à quel niveau, je ne sais pas, je ne me souviens plus de mémoire, mais ils étaient tous irradiés, donc ça prouve quand même que c'est quand même, en France hein, actuellement, c'est quand même, ça prouve quand même la dangerosité de la chose, quoi, voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est... excuse-moi, vas-y, tu voulais faire une petite annonce,
Oui,
Johan.
Si vous voulez poser une question à l'équipe, question par téléphone, vous pouvez appeler au 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Voilà, c'est pour rajouter un peu d'interactivité.
Ouais, sur l'antenne, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je tiens quand même te faire honneur, que c'est comme tu m'as beaucoup aidé pour préparer cette émission, Johan, de Zomécologie. Je reviens à mes petits choix, c'est je voulais savoir, par exemple, parce que la question quand même prioritaire qui se pose aujourd'hui au niveau nucléaire, pour moi, je peux me tromper, c'est la question qui est essentiellement politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, en dehors du lobby d'une entreprise privée, il y a quand même des lobbying au niveau de l'État, au niveau des gouvernants qui s'installent pour le tout nucléaire en France. Et je me disais, comment peut-on casser ça, ou comment peut-on créer, nous, un lobbying aussi, à l'inverse, donc, pour les énergies renouvelables ou anti-nucléaires? Est-ce que nous, on a la capacité de créer un mouvement, d'être une force? Pas de contestation, mais une force qui pourrait aller voir les députés, les assemblées pour faire une sorte de lobbying contre le nucléaire.
Là, j'ai pas très bien compris où tu voulais en venir, parce que là moi, je te suis pas du tout.
Moi hein, non
tout...
plus, t'inquiète pas.
Sur le lobbying, je pense que j'ai pas envie une seule seconde de mettre des forces pour aller faire du lobbying face à ces crapules complètement achetées. Qui veulent gérer les trucs et qu'on fait des régions entières désertées où il n'y a que la centrale qui fait travailler les gens, donc qui achète les gens parce que ça paye mieux que d'autres boulots, les boulots de centrale.
Et puis ça arrose les communes.
Voilà,
ça,
les belles communes, tout ça. Et en plus, moi, je pense que le mouvement, contrairement au monsieur, le scientifique là, qui dit des choses intelligentes sur les petits trucs pratiques, qui peut être plus ou moins gros là, sur ces miroirs, mais sur le truc, que c'est, moi, c'est pas en promouvant une alternative technique qu'on va combattre ça. Pour moi, je reste un anti-nucléaire convaincu qui combat la société nucléaire et le monde qu'il produit, ça se renforce tout ça. Une société aussi policière pour gérer la construction des centrales. Je rappelle, il y a quand même eu un mort en France et au Japon, en Inde, ils ont tiré sur la foule en mars dernier sur un site, une manifestation. C'était quoi? Jaitapur, dans l'état de dans l'ouest de l'Inde, et c'était pour un EPR. Ils veulent construire un EPR là-bas, et il y a des manifestations de protestation. Je sais pas où s'en est le dossier, mais ils ont tiré sur la foule et il y a quand même eu un mort. Donc, contrairement à ce que certains disent, pour l'instant, le nucléaire, il va pas s'arrêter de lui-même. On n'est pas dans un plan d'arrêt. Il va bien réduit. Je pense qu'il se chie dessus parce qu'il n'y a aucun État qui voulait les garantir. Donc les gens.
Mais je comprends bien ce que tu veux dire. Mais moi,
ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure où on est, c'est pas en créant un mouvement pour promouvoir une petite énergie par-ci ou un truc par-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les rares éoliennes qui ont été mises. Elles n'ont pas enrayé la machinerie de mise en place de l'électronucléaire en France et sa continuation. La seule chose, c'est qu'on est à l'heure du mix énergétique. Le CEA a mis deux lettres après, c'est commissariat à l'énergie atomique, EA, énergie alternative aussi. Et ils sont en train de triper sur les horreurs que le mec dénonçait, c'est le photovoltaïque. Des horreurs du début jusqu'à la fin en prenant les terres rares dans des endroits comme la Chine, très polluants pour les trucs, et tout ce qui est le recyclage des produits finis, une fois qu'on a utilisé, ça a une durée de vie, c'est très cher et très polluant ça. Et ben voilà, ils veulent faire un mix énergétique en mettant sous poudrant pour avoir le maximum de panels diversifiés, pour continuer à la boulimie énergétique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de combat, il faut arriver à mener un combat social.
Cyril, oui.
Ouais, moi, je voulais ajouter, il n'y a pas eu un seul mort, il y en a au moins déjà un deuxième, c'est Sébastien Briat, qui est mort écrasé par un train de déchets en essayant sur une action de blocage. Voilà.
D'accord, ben... Oui, on ne peut pas dire grand-chose, sauf que voilà, pour leur famille, c'était, voilà, c'est... Vas-y, Gianni, tu voulais dire quelque chose sur la question politique de la chose
Oui, sur cette histoire de lobbying antinucléaire. Moi, je pense que ce n'est pas du lobbying qu'il faut faire. Il faut poser clairement et ouvertement la question du rapport de force à créer pour imposer un arrêt immédiat, le plus rapide possible, des centrales. Hein.
Total
et donc, définitif. Il faut être clair sur ce qu'on veut pour que les gens sachent quel est le véritable danger, d'abord, et ensuite, quelles sont toutes les solutions possibles que des gens qui ont tout fait pour rendre impossible la sortie du nucléaire, parce qu'ils ont tout fait depuis un bon demi-siècle pour éviter d'investir de l'argent dans les technologies alternatives, et ils ont tout investi, tout misé sur le nucléaire. Mais il y avait une cohérence dans tout ça, parce que plus il le mettait, plus il nous enfonçait dans cette espèce de cul-de-sac qui rendait pratiquement impossible, et d'ailleurs c'est l'argument massu qu'on a entendu ces derniers mois, il est impossible de sortir du nucléaire, il n'y a pas d'alternative crédible. Or, la seule chose qui est crédible est la possibilité, et je dirais presque la certitude, de l'accident majeur chaque jour que les centrales vieillissent. Ça, c'est une chose qu'il faut affirmer d'une façon claire et nette. C'est le point de départ. À partir de ça, il faut dénoncer les responsabilités vous les avez appelées un crime contre l'humanité. Oui. Bah, c'est de ça qu'il faut les menacer, ces gens-là. La Cour pénale internationale, c'est pour ces gens-là qu'elle devrait être utilisée. Bon, on met l'accent sur Kadhafi, sur monsieur Moubarak, sur l'autre là,
oui, enfin,
d'autres personnages oui. anciens de l'international socialiste oui. par ailleurs, mais bon, passons. Mais c'est ces gens de personnages qui ont des responsabilités majeures en plein cœur de l'Europe. Et vu qu'on parle de la modification du rapport de force, je pense que... Et ils ont une trouille énorme des pressions politiques qu'ils pourraient être effectuées à leur encontre à partir des autres pays européens qui ont commencé à se poser le problème de la sortie nucléaire. Et il faut faire en sorte que ce poids politique, les forces internes au pays, à la France, le fassent sentir, le portent dans la rue, fassent en sorte que ces braves gens se rendent compte qu'il n'y a plus le consensus sur lequel ils avaient espéré et l'étouffement du sens critique sur lequel ils ont misé pendant une bonne trentaine d'années au moins.
Mais alors, juste une question, pour quelle raison, c'est comment tu expliques qu'en Allemagne, il y a très peu de temps, il y a eu un bouleversement, alors qu'en France, on est dans l'immobilisme.
Mais en Allemagne, oui. le mouvement antinucléaire,
oui.
Même avec des défaites, en oui. réalité, il ne s'est jamais arrêté.
Non.
Il y a eu une continuité du mouvement nucléaire, antinucléaire,
oui.
ne serait-ce que sur la question des déchets. Hein, même si les centrales ont continué à fonctionner. Mmh. Chez nous, les centrales ont continué à fonctionner, elles ont été mises à route. Ils ont cassé par la répression le mouvement antinucléaire. Et effectivement, il y a eu une retombée dans des petites choses qui, au fond, vivaient entre elles, sur elles-mêmes.
Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'en Allemagne, maintenant, à terme, si je ne dis pas de blague, c'est que finalement, ils vont supprimer l'énergie nucléaire. Non ?
Il faut attendre, ils vont déjà...
Il faut faire la part de l'électoralisme là-dedans.
Voilà.
Bon, il faut faire la part de l'électoralisme. Et
mais
bon,
quand même.
Je crois que Florian, il y avait Florian, excuse-moi, oui. Nicole, je crois que Florian voulait dire quelque chose juste avant.
Oui, je voulais juste rapporter une, une, une anecdote concernant cette histoire de rapport de force. Parce que effectivement, je pense pas qu'on réussisse à sortir du nucléaire si on n'arrive pas à établir un rapport de force avec ces gens-là. Alors le rapport de force, on pourra pas le faire sur l'argent, puisqu'ils seront toujours au-dessus de nous là-dessus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi du côté médiatique. Il y a 2 ans, au moment du Chernobyl's Day, donc de l'anniversaire de Tchernobyl, j'ai allumé une télé et j'ai regardé TF1 pour voir comment ils avaient décidé de traiter l'information. Et j'ai été assez surpris parce que le présentateur annonçait un reportage dans un pays balte, je ne sais plus lequel exactement, où il y avait la dernière centrale de type Tchernobyl encore en activité. Alors je me dis, c'est intéressant, c'est surprenant qu'ils soient allés faire un reportage là-bas. Et en fait, dans le reportage, ils ont interrogé qui ? Ils ont interrogé le directeur de la centrale, qui disait qu'il n'y avait pas de danger. Ils ont interrogé des gens qui travaillaient dans la centrale, qui expliquaient que si on fermait la centrale, ils perdaient leur boulot. Et c'est tout. Et je pense que tant qu'on aura des médias qui présenteront les choses sous cet angle-là, même si l'opinion publique a un autre avis, et à l'heure actuelle, je ne pense pas que l'opinion publique soit majoritairement pro-nucléaire malgré ça, on aura du mal à mobiliser les gens dans la rue aussi. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour lutter aussi contre ce pouvoir médiatique.
Alors pour corroborer ce que tu viens de dire, il n'y a pas longtemps à la télévision aussi, je ne sais plus quelle chaîne, mais de toute façon toutes les chaînes se ressemblent, excepté Arte bien sûr.
Oui.
J'ai vu un reportage sur la Hague où ils interviewaient des gens qui y travaillaient et les mecs disaient c'est mon gagne-pain, il n'y a aucun danger, vous voulez vivre avec la bougie, alors il faut casser absolument tous ces préjugés sur le fait de revivre à la bougie, de revenir dans le temps des cavernes, etc. Et ce mec disait, si vous me prouvez que les éoliennes peuvent faire autant d'électricité, je vous donne mon téléphone portable. À quel point on en est, quoi. Et pour conforter ce que je viens de dire, j'ai entendu dans un bar, ça c'est vraiment bref de comptoir, hein, un gars de 50aine d'années qui expliquait à une femme de 50aine d'années, ils étaient en train de boire, ils étaient un peu bourrés, excusez-moi de l'expression, mais qui disait, oh les déchets nucléaires, mais on va trouver une solution, on va les envoyer sur Mars. Non mais...
On va y aller.
C'était hallucinant. Enfin,
c'est pas cool.
L'anecdote aussi, quoi. Vas-y, Nicole.
Oui, mais moi, je voudrais quand même dire qu'il faut quand même bien se rendre compte que le système médiatique dont on bénéficie aujourd'hui, ça fait partie du problème. Je veux dire qu'il fait partie du lobby, à la limite, je veux dire, de tout cette espèce de système qui fait qu'effectivement, je veux dire, on nous a endormis pendant 30 ans sur cette question-là. Je veux dire... bien sûr, bon, nous, on fait ce qu'on peut, là. On est à la radio, on essaye de transmettre une information différente, on essaye de poser des questions. Mais je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire,
mais est-ce que sur TF1, ça vous surprend ou pas, quand même ?
Non, ça ne me surprend pas du tout. Je veux dire, le EDF a pendant des années à arroser la presse, je veux dire, de publicité qui était strictement inutile puisqu'il était en position de monopole, là, ça avait une seule raison d'être, c'était de leur clouer le bec. C'est clair. Je veux dire, je vous arrose, donc si vous dites quelque chose contre le nucléaire, de toute manière, on vous coupe le fric. On vous coupe l'arrivée dessous. Ça fait partie du système qui fait que, effectivement, la question nucléaire a été enterrée pendant des décennies chez nous.
C'est l'instrumentalisation.
Si je peux finir, je voudrais revenir sur ce qui a été la question que tu t'es posée par rapport à l'Allemagne.
Une petite remarque. Rapidement, parce que TF1 ou.
Bon, je veux dire, pour revenir sur la question de l'Allemagne, c'est un fait que le mouvement nucléaire allemand a persisté. Mais je crois aussi qu'il faut quand même dire que l'adversaire en France était infiniment plus répressif qu'en Allemagne. Je veux dire, les antinucléaires l'ont reconnu. Je veux dire, ils ont fait céder leur gouvernement à plus d'une occasion. Alors qu'en France, je veux dire, même quand ils venaient en appoint, on n'est parvenu à rien. L'enjeu en France était bien plus important parce qu'il y avait un enjeu militaire de puissance, je veux dire, conjugué à un enjeu économique où l'État mettait du fric pour permettre à de grands groupes d'émerger en termes économiques sur la scène mondiale. Et l'État était prêt à tout. Et je veux dire, ce qu'ils ont mis en place, je veux dire, pour... Au niveau du contrôle de l'opinion, c'est absolument énorme.
C'est l'instrumentalisation.
Et donc,
c'est aussi simple que ça.
Et, Justement, la remarque, c'est l'instrumentalisation par les médias, mais c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg.
C'est ça.
On veut aller à l'origine du problème, remonter tout le mécanisme, c'est peut-être la porte d'entrée, justement, pour comprendre d'où vient cette instrumentalisation, pourquoi, dans quelle situation. Donc, c'est peut-être la porte d'entrée, en fait.
Il y a Cyril qui veut dire deux mots, juste.
J'ajouterais juste sur les médias, bah, évidemment, la publicité aussi, hein, quand même. Il faut voir les campagnes de publicité d'Areva, notamment. La dernière, notamment la dernière là où il nous montrait enfin un paradis
et je pense qu'elle était sur TF1 non
et alors les publicités d'Areva sont aussi passées dans des dans tout un tas de revues, ça c'est moins télévisé tout ça, mais c'est aussi important dans des revues, y compris comme dans des revues scientifiques comme Science et Avenir ou un truc comme ça, en laissant penser de telle façon que le format de la publicité dans la revue passée, que c'était pratiquement un article du journal sur le nucléaire. Donc là-dessus, il y a Sortir du nucléaire qui avait un peu réagi et qui avait réussi à obtenir quelques trucs. Mais bon, la question de la publicité rentre aussi à fond dans ce système de propagande pour le nucléaire. Quoi.
Oui, on est sur des questions d'image. Ils savent l'utiliser, ils savent communiquer en situation de crise. Ils sont formés à ça.
Exactement.
Mais moi, j'avais une question, c'était par rapport à la réflexion qu'il y a pu y avoir sur notre propre maîtrise de notre consommation.
Oui.
C'est un enjeu quand même actuel. Ouais. Bon, on entend l'individualisation des compteurs énergétiques, etc. Ouais. Mais moi, je me posais la question, parce qu'on présente le nucléaire comme étant la source à 75% de production d'électricité en France. Et ça serait intéressant, d'électricité. Mais ça serait intéressant, nous, de savoir combien de pourcentage, par exemple, moi, je consomme d'électricité d'origine nucléaire. J'en suis incapable. Suis incapable de le savoir. Et si je voulais agir, sur ma consommation d'électricité ayant l'origine nucléaire, j'en suis foutrement incapable. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui n'est pas normal. Parce qu'il y a deux sens dans le système. Si on veut être unis, pouvoir influencer, on pourrait boycotter notre consommation d'énergie nucléaire, mais on en est bien incapable. Le système nous a rendus impuissants.
C'est impossible, je veux dire.
C'est impossible.
C'est une très bonne question. Pourquoi
c'est impossible? La question n'est pas individuelle. Il n'y a pas de solution individuelle à cette question-là. Oui, c'est pas une question de comportement individuel.
Moi, je pense que si. Je pense que dans beaucoup de situations d'écologie, ça passe aussi par des prises de conscience et des comportements individuels qui changent. Il n'y a pas que la question des médias, parce que les médias influent sur notre mental. C'est une société complètement mentale. Par la télé. Et donc, en fait, on est même piégé, puisqu'on est même conditionné par des images qui nous sont envoyées n'importe quand, que ce soit dans le métro, quand vous baladez ou en regardant une vitrine des shops ou en allumant votre télé. On est sous influence. Et je pense qu'il y a aussi, dans ces questions-là, c'est de se libérer dans la critique des médias de cette influence. Mais aussi, pensons un peu à ça. Pensons à reprendre la maîtrise des choses dans notre quotidien. Il y a des gens qui ont fait plein de choses. Je pense même peut-être des personnes qui s'intéressent à la décroissance. Il y a toute une réflexion. Je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans quand même. Il y a tout un terreau. Mais la traçabilité de notre consommation avec les différentes sources de production, moi, je ne la connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ça vient et comment ça a été produit. Et pourtant, je l'achète.
C'est la traçabilité, c'est excellent.
Juste une chose, c'est qu'effectivement, une somme d'individualité, ça fait un collectif. Donc effectivement, la solution, elle est collective et individuelle
c'est
aussi, bien malheureusement, parce que l'énergie, c'est aussi des choses qui peuvent se faire par soi-même. Ouais. On peut réduire nous-mêmes, individuellement, notre façon de...
On peut baisser peut-être notre consommation, mais ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses, parce que de toute manière, le gros de la consommation est industriel, avant tout. Je veux dire, donc ça ne pèse pas lourd, sur le fond du problème. Moi, je voudrais dire, en plus, que ce mode de raisonnement, sur la question du nucléaire en particulier, nous détourne de la vraie question, parce qu'il il introduit une espèce de question de culpabilité individuelle, alors que précisément, aujourd'hui, il va falloir mettre le doigt. Tout à l'heure, tu parlais de crime contre l'humanité, mais alors commençons à désigner qui a participé à ce crime-là. Il y a pratiquement un énorme pan de la société qui a participé à cette chose-là. Il y a tous les partis. Le PC a joué un rôle considérable dans la promotion du nucléaire. Le Parti socialiste a toujours soutenu les options nucléaires et continue à les soutenir. Je veux dire, les syndicats d'EDF, je veux dire, ont toujours promu le nucléaire, ont fermé les yeux sur les problèmes qui étaient posés aux trimardeurs nucléaires, ont fermé les yeux sur les problèmes de sous-traitance. Je veux dire, toutes ces questions-là, il va falloir les poser clairement, je veux dire, et effectivement, c'est tout un pas de la société qui a trempé dans tout ça, je veux dire, et là, on n'est pas dans une question de savoir effectivement si on peut baisser sa consommation en fermant des ampoules ou autre chose. C'est quand même un autre ordre problème.
Mais ça fait pas tant de
gens. J'ai un exemple, hein, sur le fait que c'est impossible de déterminer des responsabilités individuelles et ça n'a pas de sens de culpabiliser les individus. C'est un problème que nous avons rencontré il y a un peu plus de 10 ans, quand on s'est retrouvé dans le moment des chômeurs précaires, justement sur la consommation d'électricité, sur le fait qu'il y avait les chômeurs précaires qui n'avaient pas la possibilité de payer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, on a découvert que ce qui était le plus en difficulté étaient des gens qui se trouvaient dans des logements sociaux qui étaient entièrement et obligatoirement équipé avec des chauffages électriques.
Oui.
Sans isolation.
C'est vrai. C'est un choix fait sur la tête de tout le monde. Et ce n'est pas un choix individuel. Hein. C'est un choix fait par les organismes HLM en collaboration avec EDF. Mais il y avait plus vicieux. Parce que ceux qui ne pouvaient pas payer, non seulement n'avaient pas le droit à être aidés, eux, mais les organismes sociaux refilaient sous la forme d'aide pour payer les factures de l'électricité, de fait, du fric directement à EDF. Ça veut dire que l'État payait EDF pour surtout éviter que EDF contribue au budget des plus pauvres. C'est ça aussi qu'il faut regarder dans la dimension sociale du problème et sur les interconnexions de l'ensemble des lobbies qui contrôlent le nucléaire.
Je suis d'accord, mais juste avant de te laisser la parole, Rimso, je voulais juste te dire un truc, c'est que effectivement le problème n'est pas individuel, il est collectif, mais qu'en face, ceux qui ont choisi de faire du tout nucléaire dans les années 74, que ce soit De Gaulle ou les partis, même s'ils sont partie prenante puisqu'ils ont fermé, ils ont rien dit, ils ont accepté sans rien dire, mais c'est quand même De Gaulle, c'est quand même Giscard. Ça a été ensuite le gouvernement Mitterrand qui a rien dit, qui a continué même.
Qui s'est fait élire sur un programme.
Absolument. Donc là, c'est quand même des individus, c'est plus des collectifs là. C'est quand même des hommes seuls qui ont décidé, les hommes d'État.
C'est des gros lobbies dont ces hommes-là étaient les représentants. C'est ça. Il ne faut pas confondre la cause et l'effet. Hein.
D'accord, excuse-moi, c'est exact.
Après. Là où je voulais, ce qu'il a dit, je peux partager un minimum, mais c'est sur l'individualité on parle. Moi, s'il y a des gens qui ont une responsabilité, c'est tous les gens qui acceptent encore d'être ingénieurs, d'aller travailler pour fabriquer ces trucs nucléaires parce qu'ils pourraient faire l'autre boulot. Et là-dessus, lobby ou pas, là c'est le seul genre que j'ai envie d'attaquer. Alors sur le truc individuel. Après, j'avais d'autres choses à dire sur l'impossibilité aussi de gérer individuellement sa consommation. C'est que, par exemple, on peut de plus en plus, il y a un pan entier des centrales nucléaires et de l'électricité en général qui va servir pour tout ce qui est numérique. Parce que c'est un gouffre avec tous les serveurs, tous les trucs comme ça, et de plus en plus. Et j'ai beau, je travaille en bibliothèque, dire non, il ne faudrait pas tout mettre, tout ça, mais tout mettre sur Internet, que les gens, par exemple, il y a des gens qui peuvent refuser de tout faire par virement, d'avoir les factures électroniques, mais on est plus en plus coincé par un système qui pousse les gens à tout faire par Internet. Donc, la marge de manœuvre individuelle, elle n'y est plus. C'est illusoire de croire ça. C'est des phénomènes de lobby, de massification, d'avancée technologique et de fuite en avant vers le progrès. C'est aussi, si on ne met pas en cause le progressisme ambiant, la marche linéaire vers le progrès social qui découlera des progrès technologiques, on est foutu. Et sur la responsabilité des individus, à un moment donné, il y avait Günther Anders, le célèbre... je crois qu'il est autrichien qui avait écrit L'obsolescence de l'homme, dont le tome 2 vient de sortir. Lui, suite à Tchernobyl, il a dit ce qu'il faudrait, moi je suis non-violent, pacifiste, tout ça, mais maintenant j'ai changé d'avis, je deviens violent sur certaines personnes. Et il faudrait que tous les patrons liés au nucléaire, aux usines de mort, tout ça, C'est quand ils marchent dans la rue, ils aient peur de ce qu'ils aient dans leur dos, parce qu'il pourrait leur arriver un coup de couteau ou un truc comme ça, parce qu'ils portent la responsabilité. Là, c'est là où on peut taper des individus.
Enfin, moi, je voulais juste rester pacifiste et réfléchir à un peu à un changement d'attitude qui existe quand on est client du photovoltaïque et qu'on devient producteur. Parce qu'on est consommateur d'énergie, mais il y a des sociétés qui viennent vous installer une installation photovoltaïque dans votre maison. Et tout d'un coup, vous devenez producteur de votre énergie. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude dans notre pays de voir ça, puisque c'est un peu l'idée du pionnier. C'est un peu le Far West, un peu cette idée-là. Enfin, bon, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais il y a des changements de comportement. Enfin, c'est plus sociologique ou social, je ne sais pas. Enfin, par rapport à des changements d'attitude ou de comportement qui sont liés à la consommation d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, le fait de passer de consommateur à producteur très rapidement et de rester les deux, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la double attitude. C'est ce qu'on vit dans la société, souvent, d'ailleurs. Avec Internet, ce que tu disais, il y a aussi une logique de on va te proposer un service, on te pose des questions et c'est à toi de trouver la solution. C'est-à-dire, en fait, il y a des stratégies comme ça dans le service, parce que la société, les gens vivent de plus en plus dans le service et travaillent dans le service. Et donc, il y a une approche relationnelle qui est vraiment phénoménale maintenant avec tous ces outils. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de réflexion sur les doubles attitudes qui existent. On te demande à la fois d'être consommateur et producteur, qui peuvent être culpabilisantes, je suis d'accord. Mais je pense au niveau de l'efficacité d'une action où l'idée, c'est de fédérer et d'arriver à dégager quelque chose d'intéressant, je pense qu'il faut aussi avoir ce genre de réflexion.
Johan ?
Oui, le Internet n'est pas le seul... Si ce n'est de protéger la liberté sur Internet, ça c'est un gros problème actuel. Mais l'utilisation d'Internet que pour une question commerciale et pour faire vendre encore plus de produits électroniques ou de services électroniques, se rajoutent aussi d'autres éléments qu'on retrouve dans la vie quotidienne où on a une explosion de moi, ce que j'appelle des gadgets électroniques comme la prochaine promotion de radars pédagogiques, etc. Tous ces petites choses qui justement font partie, augmentent la consommation générale, c'est la consommation industrielle aussi, et qui font exploser les compteurs. Et ça va poser visiblement un problème très sérieux dans l'avenir, parce que c'est une consommation qui devient obligatoire, permanente, et qu'on ne peut pas contrôler efficacement, et qui inclut après des services, dépendances, etc. Donc on ne pourra pas pouvoir aussi bloquer ou éteindre facilement. Un peu comme les feux rouges. Et là, on se retrouve dans un piège où il va falloir fabriquer de nouvelles centrales à charbon, comme ça se fait actuellement pour pallier à la surconsommation, soit de nouvelles centrales. Ça justifiera de nouvelles centrales nucléaires. Donc on rentre dans un cercle vicieux à deux pas, surtout la France apparemment, et il va être difficile de s'en sortir. Et j'ai une anecdote par rapport justement aux gens qui travaillent dans le nucléaire, qui est, s'il est vrai qu'il y a vraiment un doute, une question à se poser sur l'intégrité des gens qui travaillent dans ce secteur-là, il y a aussi des anecdotes qui remontent de temps en temps de gens haut placés qui deviennent très religieux. Très très religieux, qui vont à l'église tous les jours et ça fait poser des questions, voilà. Donc il y a des gens qui sont conscients peur, probablement peu, de la situation.
Excusez-moi, mais juste un petit truc vite fait à propos. Tu disais tout à l'heure question des patrons ont peur. Juste une petite anecdote. Hein, il y a quand même un site sur, je crois que c'est au Tricastin, je sais pas quelle usine, qui s'appelle Georges Besse 2. C'est quand même évocateur.
On va annoncer la manifestation parce que c'est quand même l'émission en train de se terminer. C'est donc c'est le 11 juin, donc samedi 11 juin, je crois que c'est République à 14h30, oui. Si mes souvenirs sont bons. Grande manif contre le nucléaire, bien sûr, il faut absolument y aller. Allez-y en famille même. Il y a un concert à 16h. Si les CRS chargent, évitez quand même la charge. Hein, on peut toujours essayer.
Est-ce qu'on est capable de concurrencer les Allemands ?
On va essayer.
Et il faut rappeler qu'il y aura des cortèges aussi pour la remédier là-dedans et que le collectif contre l'ordre atomique, Nicole, tu peux préciser, et on a un rendez-vous après la manifestation pour discuter.
Après la manifestation, rendez-vous au square de l'Île-de-France qui est au bout de l'île de la Cité derrière Notre-Dame.
Pour discuter des positionnements pour la remédier.
Alors c'était Cause Commune, donc une émission commune pour les émissions sociales et politiques de Fréquence Paris Pluriel. Il y avait donc Gianni et Nicole de Vive la Sociale. Il y avait Johan qui m'a beaucoup aidé dans cette émission de Zoom Écologie. Également Cyril et Florian qui sont de la technique de Zoom Écologie. Il y avait également Yves du Rendez-vous des auteurs, Rimso du Collectif contre l'ordre atomique, Christian et moi-même Gilles de Mode d'emploi et bien sûr Julia de l'Hebdo. Donc voilà. C'est donc cette émission se termine. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur la question parce que le nucléaire malheureusement n'est pas terminé. Ça va encore durer des milliers d'années. Il y a encore des... Non, je... Mais nous sommes encore pour l'arrêt immédiat des centrales nucléaires, voilà, en France. Et toujours en été. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir faite. En tout cas, merci.
Merci à Gilles.
Merci beaucoup à vous. Merci, messieurs, dames, de l'avoir écouté. Je vous embrasse tous. Bisous aux filles et bien sûr, poignée de main aux garçons. À bientôt. Ciao.
Et on va se quitter en musique avec les VRP qui nous parlent de la Picardie avant d'aller en musique dans les Antilles.
Bienvenue en Picardie, les vacances toujours réussies. Venez respirer le grand air derrière la centrale nucléaire. Bienvenue en Picardie, la Côte d'Azur à moitié prix. Plus de place dans le camping, il faut dormir sur le parking.
Sur le parking.
11 mois de l'année, passez à travailler. Un repos bien mérité, vive les congés. Congés payés. Accident mortel, porte de la chapelle, la caravane est ruinée et la grand-mère est enterrée, oui enterrée en Picardie. Enterrée en Picardie, file les vacances pour mamie, elle qui aime être dans les fleurs, elle a de la chance dans son malheur. Enterrée en Picardie, c'est le bonheur pour la vie, pas de problème pour l'enterrement, l'assurance marche à 100%. Cimetière, un bon plateau de fruits de mer, au restaurant du port, peut-être qu'on a eu tort. Sur la plage l'après-midi, le doute n'est plus permis, on court à la pharmacie, voilà la pluie. Quel ennui en Picardie, quel ennui en Picardie, quel ennui en Picardie, pas le soleil aujourd'hui, les journées ne sont pas si mières, aujourd'hui on a de la fièvre. Quel ennui en Picardie, il faut rentrer sur Paris, plus que 6 mois de calvaire en attendant. L'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver.